dire que ce soit une explosion qui arrive dans un ciel ouvrier serein. En fait, il y avait une remontée de la combativité ouvrière au moins depuis une année déjà. Et depuis mars 68, à l'université de Nanterre, en banlieue parisienne, des étudiants contestataires manifestaient. Au départ, ils étaient peu nombreux. Et le 2 mai, pour arrêter le mouvement, la direction de l'université a fait fermer la faculté. Et du coup, un meeting de protestation a eu lieu le 3 mai, cette fois à l'université de la Sorbonne, c'est-à-dire en plein centre de Paris. Et ce 3 mai, la police intervint brutalement, arrêtant 600 manifestants. Et cette attitude a mis le feu aux poudres, des bagarres éclatèrent très violentes. Et à partir de là, la révolte étudiante se déploya toujours plus largement, à coups de pavés et d'occupations. Le Parti communiste, donc c'était le plus grand parti d'opposition à l'époque, multipliait les prises de position hostiles aux étudiants révoltés. Son journal, L'Humanité, n'hésitait pas à calomnier les étudiants. À longueur d'articles, ils étaient qualifiés de casseurs d'extrême gauche, je cite, hein, de faux révolutionnaires à démasquer, qui feraient, je cite encore, le jeu du pouvoir gaulliste et du grand capital. Et du coup, le PCF était vomi parmi les étudiants et de fait, il était exclu de leur mouvement. Mais peu importe à la jeunesse les attaques, elle est de plus en plus nombreuse à manifester et toujours plus déterminée à résister à la police. Du 4 au 10 mai, les manifestations étudiantes se succèdent dans Paris. La police gaulliste, qui était formée à la répression pendant la guerre d'Algérie, se déchaîne. Des passants sont matraqués eux aussi. Dans la nuit du 10 au 11 mai, les affrontements sont violents. C'est ce qu'on a appelé la première nuit des barricades. Et la répression, là, en une manifestation, hein, en une nuit, elle fait plus de 1000 blessés. Alors, suite à cette nuit, devant la violence de la répression vis-à-vis des jeunes, l'opinion bascula du côté des étudiants matraqués et qui, tout en étant matraqués, hein, ne lâchaient pas. Et ce qui a été perçu comme un fait assez incroyable à l'époque, c'est que par moments, c'est la police qui était obligée de reculer face aux étudiants. Alors, des policiers qui partent en courant, ça a beaucoup impressionné la population. Alors l'indignation était générale. Les parents de ces étudiants, y compris ceux qui n'étaient vraiment pas du tout révolutionnaires, des enseignants, des travailleurs, étaient solidaires de leurs enfants et ils étaient en colère qu'ils se fassent tabasser comme ça. Les grands partis de gauche, le PC et le PS, avaient prétendu depuis des années que le pouvoir de De Gaulle était tellement fort qu'on ne pouvait rien faire contre lui. Et ces étudiants, ben, ils démontraient que finalement, le pouvoir, il n'était peut-être fort que de la faiblesse ou de l'inaction des organisations ouvrières. Les centrales syndicales, l'UNEF pour les étudiants, la CGT, la CFDT chez les salariés, appelèrent alors à une journée de grève et de manifestation pour protester. Et ce fut le 13 mai. Donc pour les organisations syndicales, l'idée était de faire une seule journée de grève. Mais par le succès énorme de ce 13 mai, cette journée-là a changé profondément l'ambiance. En fait, ce jour-là, tout le pays s'est arrêté. C'est un véritable raz-de-marée. À Paris, le défilé est monstre. 1 million de personnes qui manifestent. Et dans les manifestations, des traditions du mouvement ouvrier communiste qui paraissaient oubliées, comme les drapeaux rouges et noirs, le chant de l'Internationale, sont réapparues en quelques jours. Les événements de 68 sont restés au stade de la révolte. Ils ne se sont pas développés vers une situation révolutionnaire. N'empêche, un trait frappant de mai 68 est la rapidité avec laquelle les idées révolutionnaires ont ressurgi et sont tout à coup devenues à la mode. Toute une jeunesse étudiante et travailleuse s'est en quelques jours tournée vers les idées de Lénine, Trotsky, Guevara, de Mao et de Marx. Donc, le 13 mai est un tournant, et ce succès est comme un choc qui permet à la classe ouvrière d'entrer vraiment dans la lutte. Ce qui était prévu, c'est que le travail reprenne partout le 14 mai. Mais le climat a changé, donc sans qu'il n'y ait d'appel, la grève est reconduite le 14 dans une usine, le 15 dans deux, et puis c'est comme une traînée de poudre, la grève s'étend partout, spontanément. Alors pour la CGT, on a dit tout à l'heure hein, qu'elle était vomie par les organisations étudiantes et par le mouvement étudiant. Donc il fallait surtout pas qu'il se passe la même chose dans la classe ouvrière. Et c'est pourquoi la direction de la CGT, donc par peur hein, d'être débarquée, a décidé de laisser faire la grève et de se mettre à la tête du mouvement. À l'époque, la CGT était de loin le syndicat le plus important et les appareils de la CGT et du PC se recoupaient en grande partie. Donc le 17 mai, la direction de la CGT appelle les travailleurs à entrer dans la lutte là où c'est possible et quasiment toutes les entreprises furent mises à l'arrêt dans les jours qui suivirent. Participaient à cette grève des ouvriers, des employés, des techniciens, des coiffeuses, garçons de café, footballeurs, des collégiens de 13 ou 14 ans. Le mouvement était irrésistible. Et dès le 20 mai, plus de 10 millions de travailleurs étaient en grève. 10 millions, ça dépasse tout ce que la France a connu jusqu'ici. Usines, chantiers, banques, téléphonie, stations-service, trains, tout fut arrêté. Et pas un ou deux jours, hein, mais pendant 3 semaines, voire un mois. La jeunesse étudiante a été le déclencheur des événements et son inspiratrice politique. Avec des slogans, on en a entendu certains, hein, sans doute, comme, alors je cite, « Ne perdons pas notre vie à la gagner », ou alors « Soyons réalistes, demandons l'impossible », ou encore « Ne me libère pas, je m'en charge ». Par ces slogans, elle exprimait son rêve d'une société et de relations sociales radicalement différentes. Elle disait son désir de libérer la société de l'exploitation et du carcan capitaliste. Elle formulait l'aspiration, largement partagée, à une société égalitaire, plus juste, plus libre, plus humaine. Mais c'est l'entrée en lutte de la classe ouvrière qui fit basculer la situation et déstabilisa le régime et qui fit peur à la bourgeoisie. Car contrairement aux étudiants, la classe ouvrière est au cœur de la production. Ce qui lui donne les moyens de passer des paroles, des slogans, aux actes. Si elle en a la volonté consciente, ça n'est pas arrivé hein, en 68, la classe ouvrière a la capacité de refaire le monde. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. La classe ouvrière, les exploités, représentent une force sociale qui n'a pas intérêt à la continuation de ce système. Les prolétaires, disait Marx, n'ont que leurs chaînes à perdre. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, qu'ils produisent les profits et font fructifier le capital, les travailleurs sont capables, demain, de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une autre société. Alors en 68, quand la grève générale s'installa avec cette ébullition d'idées révolutionnaires parmi la jeunesse, le régime gaulliste n'eut plus qu'une idée en tête. Trouver le moyen d'éteindre l'incendie. Et comme en 36, le gouvernement se dépêcha de mettre le patronat et les organisations syndicales autour d'une table pour voir comment remettre la classe ouvrière au boulot. En un rien de temps, gouvernement et patronat lâchèrent des augmentations de salaire. Alors les mêmes qui avaient répété juste avant que c'était impossible, ont lâché une hausse du SMIC de 35%. Ils ont cédé de nouveaux droits syndicaux et furent forcés, dans bien des entreprises, de réduire le temps de travail. Et malgré cela, pour bien des travailleurs, ces avancées n'étaient pas du tout à la hauteur des espérances qu'avait suscité la grève. Alors pourquoi cela se passa-t-il ainsi ? D'une part, le mouvement est resté dirigé, maîtrisé, par les appareils réformistes. C'est vrai presque partout. Mais comme on a ici des camarades qui ont vécu 1968 à l'usine de Peugeot-Montbéliard, je vais prendre cet exemple et peut-être qu'ensuite dans la discussion ils pourront compléter un peu. Donc à Sochaux, avant même que la grève ne commence, la direction des syndicats, CGT, CFDT et FO, ont mis en place une direction intersyndicale de la grève. Donc ils se disaient pour la grève, mais tout naturellement, directement, ils se sont mis à sa tête comme s'ils étaient naturellement les chefs de la grève. Ensuite, ils ont certes laissé discuter les ouvriers dans les assemblées générales, mais tout maîtrisé et pris toutes les décisions importantes. Ailleurs, ils ont découragé par leur attitude les ouvriers de participer aux occupations d'usines, suggérant par exemple « mais à quoi ça sert d'être si nombreux ?» Et du coup, les occupations qui, en 1936, avaient joué un rôle fondamental, qui avaient vraiment foutu la trouille au patronat, qui avait peur de tout perdre, en fait. Voilà, la propriété des capitalistes sur les usines, elle était vraiment mise en cause en 1936. En 1968, par contre, les occupations ont été du coup à peu près vidées de cette signification subversive. Les appareils réformistes, ils ont aussi volontairement coupé la classe ouvrière des étudiants. Les étudiants qui étaient alors les plus combatifs et qui étaient souvent hostiles au stalinisme et hostiles au réformisme en général aussi. Ils savaient que la contagion étudiants-jeunes travailleurs pouvait être dangereuse pour eux. Ils ont même découragé les grévistes d'aller voir les ouvriers d'autres usines. Quand ils n'ont pas coupé les uns des autres, les grévistes de différents ateliers d'une même usine, comme à Renault-Billancourt, par exemple, en région parisienne. Donc de fait, après avoir laissé faire le démarrage de la grève, les appareils syndicaux ont plus démobilisé que mobilisé. Et c'est leur première trahison. En faisant à la place des travailleurs, ils ont empêché leur prise de conscience. Une prise de conscience de leur force, de leur capacité, de leur intelligence collective. Des qualités qui se seraient révélées forcément s'ils s'étaient mis à organiser eux-mêmes des aspects de la grève. Qu'on pense à l'organisation du ravitaillement, aux services d'ordre, organiser les manifestations, mettre en place par exemple des systèmes de soins après des manifestations violentes, la propagande pour la grève et surtout créer des liens de coordination entre les entreprises. Si les travailleurs avaient été en situation de faire ça, en fait, ils se seraient forgés leurs propres organes de lutte et à ce moment-là, la conscience des travailleurs, elle aurait pu faire un grand bond en avant au cours de la grève. Au contraire, les appareils syndicaux ont fait tout leur possible pour étouffer un véritable progrès de la conscience de classe. Les ouvriers, donc y compris les jeunes qui avaient pris l'initiative du mouvement, s'effacèrent. Après avoir étouffé toute possibilité de développement de la grève par en bas, par la participation vivante des travailleurs, les directions acceptèrent qu'elles soient décapitées. Je m'explique. Jusqu'à ce qui a été appelé les accords de Grenelle, il n'y avait pas des grèves dans des usines, mais la grève. Plus d'essence, il faut imaginer, plus de ramassage des ordures, plus de trains, plus de transport, des coupures d'électricité. Les travailleurs, en se mettant en grève, rejoignaient un mouvement général. C'était une grève politique. D'ailleurs, il n'y avait pas de revendication pendant tout un temps. Il y avait simplement ras-le-bol général, ras-le-bol des conditions de travail. On bossait 46 heures par semaine à l'époque. Ras-le-bol du pouvoir de Gaulle, de cette vie d'exploitation. Mais après Grenelle, la fin des discussions au niveau gouvernement, patronat, centrale, syndicale, donc la fin des discussions à un niveau général, c'était une manière de décapiter la grève. Puisque au moment où le mouvement d'ensemble commençait à paniquer le gouvernement, le patronat, la haute administration, on a vu des images de tous ces gens-là qui commençaient à faire leurs valises pour se sauver. Ils commençaient vraiment à être paniqués. À ce moment-là, donc en décapitant la grève générale, les travailleurs ils étaient renvoyés en fait chacun dans leurs usines et ils devaient se débrouiller pour négocier par entreprise et obtenir un peu mieux que Grenelle. Donc avec un rapport de force bien moins favorable que dans une grève générale. Donc la grève générale était transformée en une multitude de grèves particulières locales. Et ça signifiait en fait éparpiller le mouvement, l'affaiblir, abandonner à leur sort les travailleurs des entreprises où le rapport de force avec les patrons est moins favorable. C'était morceler la grève unique et inquiétante pour le pouvoir en de multiples petites grèves. Et ensuite, après tout ça, les directions syndicales trahirent la classe ouvrière en mettant toute leur influence à faire reprendre le travail, en contrepartie donc de quelques avantages lâchés par la bourgeoisie et son gouvernement. Bon, et nous, lutte ouvrière, dans cette histoire, parce qu'évidemment, on peut avoir l'air de critiquer les autres, mais nous, qu'avons-nous fait? Donc, on l'a dit, on a quelques camarades qui ont vécu ce mouvement, mais les copains n'étaient pas nombreux avant 68. Il fallait énormément de courage et de conscience pour oser choisir le trotskisme face à un parti communiste stalinien qui était quasiment hégémonique dans la classe ouvrière et qui se posait en fait comme le seul représentant légitime des travailleurs. Donc en réalité, notre organisation, elle était trop petite pour jouer un rôle dans le cours général des événements. Mais en même temps, dans les quelques entreprises où il y a eu des comités de grève, c'est parce qu'il y avait des militants révolutionnaires, dont ceux de notre tendance, hein, qui étaient implantés dans ces usines. Donc des comités de grève, ça veut dire des comités élus, représentatifs des ouvriers, et qui permirent, dans ces endroits, que la grève soit menée réellement démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes et qu'elle aille du coup le plus loin possible. On ne sait pas, on ne saura jamais jusqu'où le mouvement aurait pu aller si cette politique avait été tentée plus largement. Si par la présence de militants beaucoup plus nombreux, implantés et déterminés à ce que le mouvement puisse aller au bout de ses possibilités, une fraction de la classe ouvrière avait été en situation de prendre conscience de ce qui se jouait. Cela a manqué. Ce qu'on peut en conclure, ce que nous en concluons en tout cas, c'est qu'il est indispensable pour le courant communiste révolutionnaire d'être bien plus largement implanté dans la classe ouvrière qu'il ne l'était en mai 68. Et c'est d'ailleurs le sens de notre action militante au quotidien, aujourd'hui et surtout dans les usines, donc tenter de propager les idées révolutionnaires au sein de la classe ouvrière pour former des militants ouvriers communistes. Pour nous, ça demeure une tâche fondamentale. Pour conclure, en mai-juin 68, la classe ouvrière fit une fois de plus la démonstration de sa force. Elle fit la preuve qu'elle était capable de faire reculer un pouvoir aussi solide que celui de De Gaulle. Et pour nous, qui sommes convaincus que le monde ouvrier a les moyens de prendre en main la société et de la diriger, c'est quelque chose de formidable. Et avec tous ceux qui ne supportent plus la situation et souhaitent une nouvelle explosion sociale, nous affirmons que oui, il faut un nouveau mai-juin 68.